Salut à tous, bienvenue sur la matinale de HDR et Principes Actifs. Bienvenue dans les studios, aujourd'hui on a plusieurs invités et puis on va parler sport et moi des fiertés principalement. Mais il y aura aussi un petit peu de nourriture et de bonnes choses, du partage. C'est un peu le rendez-vous du mix des cultures. Enfin voilà, là on est totalement dedans ce matin. Là il y a pas, on peut pas être plus dedans. Et donc on va ouvrir un peu cette matinale avec ce match hier soir où on avait l'ami JC, le spécialiste du sport, qui allait faire un tour en fait sur les Hauts-de-Rouen, voilà, pour une ambiance festive. On va écouter un petit peu ce qui s'est passé.
Hier soir, les habitants des Hauts-de-Rouen ont pu suivre le match France-Sénégal sur un écran géant installé par la ville de Rouen. Avant le coup d'envoi, des animations sportives étaient proposées aux enfants dans une ambiance conviviale. Sur le terrain, les Sénégalais ont réalisé une très bonne première mi-temps. Ils ont même manqué deux grosses occasions qui auraient pu leur permettre de prendre l'avantage. Mais au retour des vestiaires, les Bleus ont réagi. Ils ont pris le contrôle de la rencontre et se sont finalement imposés 3 buts à 1. Une belle victoire pour l'équipe de France qui lance idéalement sa Coupe du Monde. Et derrière cette soirée festive, organisée sur les Hauts-de-Rouen, il y a la volonté de faire vivre le sport au plus près des habitants. Nous avons rencontré lors de cet événement Caroline Mendy, conseillère municipale chargée des sports à Rouen. Elle a participé à l'organisation de cette retransmission et des animations proposées au public. Elle nous en parle un peu plus.
Quand on a été élu du coup fin mars, lors de mes premières rencontres avec les agents de la direction de la vie sportive à Rouen, le directeur Sven Benadi m'a directement parlé de ce projet qu'il voulait mettre en place une retransmission dans les Hauts-de-Rouen, et ça me semblait vraiment important de le faire ici parce que il faut montrer que on a envie de mettre en place des événements dans toute la ville, pas que au centre-ville, et il se passe des choses dans les Hauts-de-Rouen. On a aussi une volonté et les habitants veulent qu'il se passe des événements, donc directement moi j'ai dit oui, let's go, on y va, on le fait. Donc après ça a été accepté par le maire, ça a été validé par la préfecture, on est très content. Donc il y a la jauge des 1500. On ne pouvait pas faire plus, c'est toujours plus compliqué. Et là, on aurait eu plus de freins, on va dire, sur cet événement. Donc là, avec les animations l'après-midi pour les écoles, toutes les associations qui participent, qui sont du secteur, nous, ça nous fait vraiment plaisir pour la ville. On est vraiment heureux.
Et c'était donc très très chouette du coup de voir cette liesse populaire sur les Hauts-de-Rouen avec bien sûr le sport qui fédère et puis l'ami JC qui est toujours là en fait lui pour nous faire des petits comptes rendus. Donc victoire de la France 3-1 et puis donc ça se poursuit aujourd'hui. On aura Portugal et République démocratique du Congo et puis Angleterre-Croatie dans la nuit. Ce sera Ghana-Panama. Voilà, n'hésitez pas à retrouver tout le programme de cette Coupe du Monde de foot 2026. On le disait au début de la matinale, du pire reste à venir. On va également parler du mois des fiertés, le mois de juin, le mois des prides. Et donc le mois des prides, bah, qu'est-ce que c'est ? On va faire un petit point aussi parce que c'est important de se rappeler comment c'est né. Eh bien, en fait, en étant exaspéré des violences policières systémiques contre la communauté LGBTQIA+, lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuel, des personnes queer s'étaient révoltées contre la police de New York la nuit du 28 juin 1969. S'en suivront une semaine de manifestations et révoltes, et puis l'année suivante a été organisée à la même date la première marche des fiertés en mémoire de ces émeutes, les émeutes de Stonewall. En France, la marche des fiertés, la première commémorant ces émeutes, est arrivée à Paris en 1979. D'abord, la communauté queer française avait investi l'espace public pour d'autres manifestations, comme celle du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ou encore la journée du 1er mai, la fête des travailleuses. Et puis, la première marche indépendante homosexuelle française s'est tenue en 1977. En 1979 sera organisée la marche des fiertés telle qu'on la connaît aujourd'hui. Puis les prides se répondront dans le reste de la France, seulement à partir de 1994. Voilà, donc c'est important aussi de revenir sur l'histoire de ces luttes. Et puis on parlera un peu plus dans cette matinale de ce qui va se passer, puisque la Pride de Rouen, ça sera ce week-end, ce samedi 20 juin, avec tout un programme. Ça va être l'heure du premier son de cette matinale du pire reste à venir, avec un son emblématique de la communauté gay, mais remixé, voilà. On part sur Small Town Boy, Bronski Beat.
But the answers you seek will never.
Molten Boy Bronski Beat sur HDR pour la matinale. On va donc continuer à parler de la Pride de Rouen qui aura lieu ce samedi 20 juin. Et là, on va faire un petit topo de qu'est-ce qu'on va y trouver sur place. Alors, le Village des Fiertés va ouvrir dès 11h au Square Verdrel. Parmi les différentes assos, une quinzaine qui seront présentes, il y aura AIDS Rouen, Amnesty International, Enips, le collectif Payette, on les avait eus sur Queer Station d'ailleurs, Ludiqueer, le groupe d'action féministe, l'OST Rouen, l'organisation de solidarité trans, très important. On aura le planning familial, le refuge aussi pour les jeunes LGBT, QIA+, qui sont mis à la porte de chez eux. C'est important de les soutenir. SOS Homophobie, le syndicat des avocats de France ou encore les Amis de Bonneuil. Voilà, tout ce qu'il faut pour prendre des informations. Il ne faudra pas hésiter, que vous soyez personne concernée, que vous soyez alliée, que vous soyez juste curieux. Ce sera le moment sur le Square Verdrel le samedi 20 pour aller chercher toutes vos différentes infos. Pour se parer, pour ceux qui auront prévu de participer à la marche qui aura lieu à partir de 14h, eh bien avant ça, on aura un petit atelier paillettes, un atelier pancarte, et puis des boutiques avec des goodies, des drapeaux ou autres badges. Voilà, histoire d'afficher ses identités, sa solidarité, son adelphité. C'est important, et puis ça permet de soutenir les différentes associations dont on a parlé. La marche des fiertés de Rouen, c'est aussi une marche hyper accessible, et ça, c'est très important de le dire. Il y aura un véhicule PMR qui sera présent. L'année dernière, c'était le petit train de la ville, donc c'était super sympa. Bon, les enfants avaient adoré, parce que oui, c'est aussi familial, au-delà d'être inclusif. Et puis donc, il y aura également un dispositif de secours par la Croix-Rouge, parce que s'il fait très chaud ou quoi, ça peut être rassurant aussi de se dire qu'on est accompagné. Il y aura également donc des drapeaux géants, le drapeau trans et le drapeau arc-en-ciel. Donc là aussi, c'est plutôt festif et un peu sympathique. Donc ça va être haut en couleur pour cette marche des fiertés. Sur le village des associations de cette Pride de Rouen, on aura vraiment des animations, mais alors jusqu'au soir, puisqu'il y aura des concerts en clôture. Mais on y reviendra. Ça va commencer avec des discussions sur la législation du travail du sexe, la fanfare drague, le chant des sirènes qui déambulera dans le village des fiertés, un show drag avec Délice d'Orgie, Dame Yemaya et Lexa. De 14h à 16h, le rappeur Lee se produira sur le char de la Pride. On écoutera un de ses sons tout à l'heure parce que voilà, ça va vous donner encore plus envie d'y participer. On aura également un orchestre karaoké en fin d'après-midi. Voilà, vraiment pas mal d'animations sur toute cette journée. On a pas mal parlé aussi donc de l'OST ou encore du drapeau trans qui sera présent parce que actuellement c'est quand même ce qui est le plus compliqué dans la communauté LGBT, là où les discriminations et où la haine, l'expression de la haine est la plus forte, c'est auprès de la communauté trans. Et donc on va pouvoir un peu en savoir plus sur cette communauté, sur ce que c'est que de découvrir la transidentité d'un de ses proches. Et donc c'est Flore qui est allée rencontrer Fierté Colorée, les organisateurs de cette Pride de Rouen 2026, et puis qui allait recueillir un témoignage, comme toujours avec les mamans parlent aux mamans. Et ben franchement, on va encore avoir grave de l'info, et c'est tout de suite, écouter ça, super intéressant.
Radio Alter.
Ici
Radio Alter. Les mamans parlent aux mamans.
Les mamans parlent aux mamans.
Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique des mamans parlent aux mamans. La transidentité fait souvent l'objet de débats et d'idées reçues. Parmi elles, l'idée qu'il s'agirait d'un effet de mode ou d'une influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Si les spécialistes reconnaissent que des situations de regret existent, elles restent rares. La plupart des personnes trans décrivent au contraire un sentiment profond et durable de décalage entre leur identité et le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Beaucoup racontent avoir eu l'impression de jouer un rôle, de porter un masque ou de vivre dans un corps qui ne correspondait pas à ce qu'elles ressentaient au fond d'elles-mêmes. Pour elles, la transition n'est pas une décision prise à la légère, mais une façon de vivre enfin en accord avec leur identité. Lorsqu'un enfant annonce sa transidentité, c'est aussi un bouleversement pour sa famille. Certains parents ont besoin de temps, non pas parce qu'ils aiment moins leur enfant, mais parce qu'ils doivent parfois renoncer à l'image qu'ils s'étaient construite de son avenir. les psychologues parlent parfois du deuil de l'enfant rêvé. Non pas le deuil de l'enfant lui-même, qui est toujours là, mais celui des projections et des scénarios imaginés pour lui. On observe aussi que certains pères peuvent vivre cette annonce plus difficilement, souvent parce qu'ils ont grandi dans des générations où les rôles féminins et masculins étaient davantage codifiés. Pour eux, accepter qu'un enfant ne corresponde pas à ses repères peut demander un temps d'adaptation. Cela ne signifie pas un manque d'amour, mais parfois un cheminement plus long pour comprendre et accepter une réalité qu'ils connaissent peu. Et puis, lorsque ce chemin est parcouru ensemble, certaines familles découvrent un enfant plus heureux, plus serein et plus épanoui. C'est ce qu'a vécu la maman de Danae. Danae est née garçon. Pendant longtemps, elle était un enfant réservé, mal dans sa peau et en souffrance. Puis est venu le moment du coming out. Pour sa maman, cette annonce n'a pas été une perte, mais une révélation. Elle a vu son enfant s'épanouir et devenir une jeune femme heureuse, rayonnante et pleinement elle-même. Aujourd'hui, elle le dit sans hésiter. Danae est la femme qu'elle admire le plus. Voici le témoignage de la maman de Danae.
Je trouve son prénom merveilleux, je trouve qu'il lui va parfaitement. C'est une évidence, je n'ai pas douté une seule seconde quand elle me l'a annoncé. Mais d'ailleurs, il y a eu un long moment où elle n'avait pas son prénom. Elle n'était pas sûre. Il y a eu quelques mois où on ne pouvait plus utiliser son ancien prénom masculin parce que c'était douloureux pour elle. Donc on l'avait oublié, on l'appelait chérie. C'est ce qu'on appelle un dead name, c'est-à-dire que le prénom que nous avons donné à nos enfants à la naissance, ce prénom, en fait, il est attaché à quelque chose qui est très douloureux. C'est vraiment une identité, ça ne leur correspond pas. Ça a été un soulagement. Et de suite, c'est, bah oui, évidemment, c'était ça. L'acceptation, elle a été immédiate pour moi, en tout cas. Mais il y a aussi ce moment de peur de se dire comment mon enfant va trouver sa place dans la société telle que je la connais. C'est-à-dire qu'il y a une société qui n'est pas particulièrement tendre avec les gens différents, quels qu'ils soient. Dans les premiers temps, en fait, j'étais assez terrorisée parce que j'avais peur pour elle, quoi. Vraiment pour sa sécurité, pour son insertion professionnelle, pour sa capacité à trouver l'amour aussi en tant que personne trans. Donc voilà, ça, c'est la première réaction. Au sein d'une même famille, elles peuvent être très différentes. Nous, on a eu beaucoup de chance que tout le monde a fait front, en quelque sorte, en se disant « Allez, on y va, c'est son combat, mais ça va être aussi le nôtre. » Ma fille a un papa. Pour lui, ça a été plus difficile à admettre. Il n'y a pas eu de rejet ou de violence. Mais par contre, ça lui a mis un gros coup sur la tête. Et il lui a fallu des mois et des mois pour arriver à sortir d'une sorte de mutisme dans lequel il se trouvait. J'ai pas eu le sentiment du tout de devoir faire le deuil au fil de la transition. Je me suis rendu compte que son genre n'avait que très peu d'importance dans sa personnalité. C'est les détails qu'on veut bien accepter ou pas, parce que ce sont des stéréotypes. Je parle de la façon dont on peut s'habiller, etc. Mais ma fille n'a pas changé dans qui elle est à l'intérieur de ce corps. C'est juste quelqu'un qui est beaucoup plus heureuse. J'ai le souvenir d'avoir mégenré Danae un peu au début. Je patinais un peu. Son ancien prénom est ressorti quelques fois. Bon, chaque fois, c'était un drame terrible pour elle. Donc, moi, je m'en voulais terriblement. Aujourd'hui, avec le recul, je peux voir qu'il y avait une convergence de faisceaux, on va dire, qui éclairait une vérité. C'est pas que je ne voulais pas l'avoir. C'est qu'en fait, je ne pouvais pas l'avoir parce que j'étais pas informée. La transidentité, j'en avais une image, mais qui était très loin de ma vie, en fait. Il y avait une fois où on s'était amusé à se déguiser. Bon, elle avait voulu porter ma robe et les chaussures et se maquiller. Oui, ok. Mais après, c'est des stéréotypes de genre. Mais c'est vrai qu'elle était entourée, petite, que de petites filles, à un âge où on sait que les groupes se forment beaucoup avec les personnes du même sexe. Mais il y avait des réflexions qui étaient assez dures de la part de mon ex. Elle savait qu'avec moi, ça irait. Mais je pense qu'elle a quand même attendu d'être vraiment hyper sûre pour me le dire. Je me souviens très bien de l'avoir arrivée. Elle me dit, bon, t'as remarqué qu'en ce moment, au niveau vestimentaire, tout ça, il y a des choses qui changent. Oui. Puis elle me dit, bon, bah, je suis en train de réfléchir. En fait, ce qui fait que je suis pas bien, ce soit le fait que je suis une femme et je suis pas dans le bon corps. Et j'ai dit, bah, écoute, il faut mener cette réflexion au bout. Comment on peut t'aider? Est-ce que t'as envie d'aller consulter quelqu'un? Ça a été de suite ce que j'ai dit. 15 jours après, revoilà ma chipie qui vient me voir et qui me dit, c'est sûr, et maintenant, faut que ça aille vite. Parce que je peux pas rester comme ça. Et on l'a aidée comme on pouvait à partir de là. Elle avait presque 18 ans. Elle a 24 ans. Ça a commencé par ce premier coming out-là, le jour où, effectivement, elle devait avoir 16. Et là, elle m'a dit, en fait, je me sens attirée par les garçons. Mais elle n'a pas réussi à être heureuse dans cette sexualité-là, parce que elle y allait avec son corps de garçon. Alors que tout ce qu'elle avait envie, c'était d'une relation hétéro, en fait. Dès que les hormones ont fait le maximum de leur effet, elle s'est inscrite pour avoir une vaginoplastie. À l'époque, on habitait encore à Marseille, on est allé faire cette opération à Rennes, où un service venait de s'ouvrir. Il n'y a pas tant de services que ça en France. Dans le public, c'était à 100% remboursé. Elle voulait que ça aille très très vite, et on sentait que c'était la condition de son bonheur, et je dirais même de sa survie. Il y a une question de vie ou de mort, vraiment. Ces jeunes, ils sont prisonniers de quelque chose qui peut vraiment les anéantir complètement. C'est pas en les mettant sous antidépresseurs qu'on va résoudre leurs problèmes. Il y a des personnes en transition pour qui le fait d'être appelé par notre prénom, de pouvoir agir librement en étant en accord avec leur identité de genre, ça va suffire. Et puis il y a d'autres personnes comme Danae où là vraiment il fallait absolument se débarrasser de tout ce qui n'allait pas dans son corps. Elle se sentait vraiment dans un déguisement. Elle a eu beaucoup de chance dans sa vie amoureuse. À partir du moment où elle a parlé de sa transidentité, elle a eu une longue histoire d'amour avec quelqu'un qui l'a accompagnée tout le long de sa démarche. Avant la vaginoplastie, ils étaient en couple, l'opération a eu lieu, donc c'est des mois difficiles, et ils se sont retrouvés avec ce nouveau corps et une nouvelle sexualité, et c'était toujours aussi bien. Pour moi, c'est la femme la plus incroyable du monde. C'est toujours la même personne, c'est mon enfant. Ça n'a jamais changé. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis maman d'une fille qui est heureuse, qui est bien dans sa peau.
Et c'est très touchant de voir ce témoignage au micro de Flore, les mamans parlent aux mamans. Et là, effectivement, c'est ces deux mamans qui se sont rencontrées. On sent cette émotion dans cette interview. Voilà, on a vu des sourires aussi en plateau ce matin. Naïm, c'est quoi un peu, toi, ta réaction face à cette histoire là qui nous a été racontée au micro de Flore?
J'ai envie de te dire bonjour à tous, bonjour à tous. Très agréablement surpris et à la fois content que la transition se passe aussi bien, que la maman accepte, qu'elle soit aussi bienveillante. Maintenant, et tu connais le sujet aussi bien que moi, si on veut être honnête, c'est pas souvent le cas, quoi. C'est pas souvent le cas parce que c'est des choses nouvelles, c'est des choses qui sont mais la plupart du temps cachées, donc c'est toujours agréable d'entendre ce genre d'histoire parce que ça encourage à dire les choses et à se reconnaître. Alors, je souhaite que toutes les personnes puissent avoir ce genre d'ouverture d'esprit, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire.
Oui, c'est vrai qu'il y a du travail à faire. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la transidentité, du coup, peut cristalliser des levées de boucliers, des personnes voilà, qui sont pas prêtes à voir les choses évoluer. C'est un peu comme ce qu'on vivait quand on était gay ou lesbienne, finalement, dans les années 80, 90. Il y a eu un peu un transfert. Là, je regarde un peu Michel sur le plateau. Est-ce que tu sens ce transfert un peu où aujourd'hui, être une personne trans, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué, et là où il y a eu une banalisation sur l'homosexualité, c'est absolument pas le cas sur la transidentité aujourd'hui.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc alors je pense que tu fais une analyse qui est juste, mais qui est juste sur le plan politique, parce que quand on voit les mouvements réactionnaires américains par exemple autour de Trump, où ils s'attaquent de manière extrêmement frontal, à la transidentité. Ensuite, quand on voit la montée, ne serait-ce qu'en France, des agressions homophobes, donc contre les gays et les lesbiennes, en même temps, je pense qu'on le dit plus, c'est-à-dire que les gens qui se font agresser vont plus porter plainte qu'avant. Donc c'est pour ça aussi que les statistiques augmentent, et pour ça c'est tant mieux. Mais effectivement, il y a vraiment une cristallisation politique contre les personnes trans, tout à fait. Et surtout que parmi les personnes trans, il y a aussi beaucoup de différences, dans le sens où vous allez avoir des personnes trans qui vont souhaiter se faire opérer, comme on l'a entendu dans le reportage, certaines personnes qui ne vont pas souhaiter se faire opérer, aussi des personnes, par exemple, exemple des garçons trans. Moi, quand j'ai beaucoup voyagé à Berlin dans les années 90, où il y avait déjà ouvertement beaucoup de garçons trans qui étaient là. Et je dirais, c'est très, et je conclurai là-dessus, ce qui est très intéressant, il faut s'intéresser à quelqu'un qui s'appelle Magnus Hirschfeld. Magnus Hirschfeld, c'est quelqu'un qui, c'est de l'histoire, parce que il est décédé en 1935 à Nice. C'était un médecin juif allemand, et c'est le premier à avoir ouvert un institut de sexologie où les personnes qui pouvaient être gays, lesbiennes, trans, pouvaient venir y trouver refuge. Et il luttait contre la pénalisation de l'homosexualité et contre un fameux paragraphe qui était en Allemagne, le paragraphe 175. Donc, je pense que c'est dans ce que tu dis. Je pense que on en est qu'au début du combat.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment d'arrêt au moment de la montée du fascisme, mais pendant les années folles, on a vu des premiers pas se faire. On a l'impression qu'on réinvente tout aujourd'hui, mais non, il y a eu un gros coup d'arrêt. Et effectivement, merci à ce psychiatre, parce que il faisait des dérogations pour que des femmes dites lesbiennes, mais qui étaient plutôt dans une transidentité masculine, puissent porter le pantalon, etc.
Il faisait des certificats médicaux qu'elles puissent présenter quand elles se faisaient contrôler par la police. Ça a l'air un petit peu quasiment ubuesque, c'était vraiment ce qu'il faisait.
Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que, fut un temps, une femme n'avait pas le droit de porter le pantalon.
Absolument. En France, une femme, et je dirais même pour les femmes, jusque dans les années, je crois que c'est au début, j'ai plus la date exacte, mais jusqu'au milieu des années 60, une femme mariée ne pouvait pas avoir son chéquier toute seule. Il fallait qu'elle demande l'autorisation de son mari.
1964.
Oui, et puis le pantalon, on a pu commencer à le porter, mais c'est resté longtemps dans la loi, en fait. C'est-à-dire que
bien sûr.
C'est resté très longtemps dans la loi, cette histoire. Et puis, du coup, c'est aussi l'occasion, cette antenne, de parler du mois des fiertés, parce que c'est vrai qu'on a fait un focus sur la transidentité, mais on meurt toujours d'être gay. On pense à Noam, du coup, qui a été victime d'un meurtre homophobe. Là aussi, en fait, c'est pas derrière nous. Donc, cette marche des fiertés, elle est nécessaire. On aura d'ailleurs une part belle aux artistes, du coup, que ce soit sur le char ou en fin de soirée. Ça va être le moment de passer à notre deuxième son de cette matinale avec le rappeur trans Lee et son refrain.
C'était ça d'être un homme, mais sans alcool ni kétamine. Gratter mon expérience, je le fais assez souvent. Moi, sur les mots, quand j'étais môme, quand je pleurais sous le vent, je fais de feu et de soulèvement, de juste un peu de ces gens. Bien trop de peine ici, je partirais vers une péninsule. 4 ans que je ferme plus les yeux, bientôt je ferme plus ma gueule aussi. Parce que je parlais qu'avec des signes, mais pas besoin de décrypter ceci. Comment faire un refrain sur une chanson triste, mon ami? Je peux faire danser personne sur ce que je vis, parce que je vois le monde comme un navire, mais je crois que cette vie n'est qu'un rallye. Donc, comment faire un refrain sur une chanson triste?